VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 22 mai, au micro Anne Albertson, bonjour à tous. Pour commencer les titres, au Gabon, limogeage surprise hier soir du vice-président et du ministre des Forêts. Rapatriement le 30 mai à Kinshasa du corps de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, plus de 2 ans après sa mort à Bruxelles. En Libye, de violents combats ont été signalés hier au sud de Tripoli. L'émissaire spécial de l'ONU craint une longue guerre. Ici à Washington, profonde divergence de vues des parlementaires américains sur la menace iranienne après les briefings à huis clos hier de l'équipe de sécurité nationale du président Donald Trump. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Gabon, le président Ali Bongo a mis fin hier soir aux fonctions de son vice-président et de son ministre des Forêts. Au centre de ces mesures, l'affaire du détournement des conteneurs de bois Kevasingo. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Cette décision a été annoncée par un bref communiqué lu hier soir à la télévision nationale par Jean-Yves Thiel, secrétaire général de la présidence. Le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussaou, en place depuis environ 3 ans, a été limogé. Le leader du Parti social-démocrate avait été nommé à ce poste au sortir du dialogue organisé à l'issue de la crise électorale de 2016. À l'époque, c'était vu par l'opinion publique comme une récompense donnée à l'opposant, c'est selon. Si on en sait moins sur les motivations de l'éviction du vice-président, ce n'est pas le cas du ministre d'État en charge des Forêts. Le limogeage de Guy Bertrand Mapangu serait une sanction après son récent communiqué de presse qui est apparu comme un pied de nez vis-à-vis du chef du gouvernement. Ce dernier, Julien Corbet-Calé, par la voix du porte-parole de son cabinet, avait appelé à la démission des ministres impliqués dans l'affaire des conteneurs du bois Kevasingo disparu au port de Libreville. En attendant les derniers développements de ce dossier, le ministère des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, est désormais rattaché au service de la primature et placé sous l'autorité directe du chef du gouvernement. Libreville, Ismaël Obianze, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, 2 ans et 3 mois après sa mort à Bruxelles, la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi sera rapatriée à Kinshasa le 30 mai prochain. Ses obsèques seront ensuite organisées dans le plus grand stade de football de la capitale de la RDC en présence de quelques chefs d'État africains. Son inhumation est prévue le samedi 1er juin. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Conservé dans un funérarium à Bruxelles depuis plus de 2 ans suite à un désaccord entre sa famille biologique, son parti l'UDPS et le gouvernement Kabila au sujet de l'organisation de ses obsèques, la dépouille mortelle de l'opposant Étienne Tshisekedi Lumumba sera finalement ramenée à Kinshasa le jeudi 30 mai prochain. Des obsèques sont ensuite prévues le lendemain au stade des martyrs de la Pentecôte, le plus grand du pays, avant que celui qui aura été pendant 37 ans opposant à Mobutu puis à Kabila père et fils ne soit placé le 1er juin courant dans un mausolée érigé en sa mémoire dans la commune de Lancélé, dans la banlieue de Kinshasa. Quelques chefs d'État africains sont d'ailleurs annoncés dans la capitale de la RDC pour rendre un dernier hommage à l'historique opposant décédé à Bruxelles à l'âge de 85 ans, 2 ans avant que son fils, Félix Tshisekedi, ne soit élu président de la République. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
À noter par ailleurs que le président Félix Tshisekedi a nommé hier soir son oncle, Mgr Gérard Moulumba, au poste de chef de la maison civile du chef de l'État et reconduit le général Célestin Mbala au poste de chef d'état-major général des forces armées de la RDC, poste qu'il occupait déjà sous son prédécesseur Joseph Kabila. Et vous pourrez entendre Mgr Gérard Moulumba dans une interview d'Eddie Isango en deuxième partie de cette édition. En Libye, les combats ont gagné en intensité hier au sud de la capitale, au moment où l'émissaire spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, mettait en garde devant le Conseil de sécurité contre le début d'une guerre longue et sanglante qui pourrait conduire à la division permanente du pays. Plus de 6 semaines après le début de leur assaut sur Tripoli, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, et son autoproclamée armée nationale libyenne font toujours face à la résistance des forces du gouvernement d'union nationale, reconnue par la communauté internationale et basée dans la capitale. En Algérie, étudiants et enseignants ont manifesté mardi contre la tenue le 4 juillet de l'élection présidentielle. Ce scrutin est soutenu par le chef d'état-major de l'armée qui a mis en garde la contestation contre, je cite, « les auteurs de plans pernicieux ». âgés. De brèves échauffourées ont éclaté entre étudiants et policiers qui ont fait usage de matraques et de gaz lacrymogènes. Pas d'élection, bande de mafieux, un état civil, pas un état militaire, ont-ils notamment scandé les manifestants. Plusieurs slogans visaient directement le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, appelé à dégager ou qualifié de traître. L'Afrique du Sud a annoncé hier sa décision d'extrader vers le Mozambique l'ex-ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang, arrêté fin 2018 sur son territoire dans le cadre d'un vaste scandale de corruption qui défrait la chronique dans son pays. M. Chang est poursuivi pour les mêmes faits au Mozambique et aux États-Unis, qui avaient aussi réclamé à Pretoria son extradition sur leur territoire. M. Chang est soupçonné d'avoir autorisé, à l'insu du Parlement mozambicain et des bailleurs de fonds internationaux, pour 2 milliards de dollars d'emprunt à des entreprises publiques de son pays. Un audit indépendant a révélé qu'un quart de ces sommes avaient été détournées.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, les parlementaires américains ont exprimé des vues très divergentes sur la menace posée par l'Iran après les briefings à huis clos faits hier par l'équipe de sécurité nationale du président Donald Trump à tous les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. La tension n'a cessé de monter entre Washington et Téhéran avec l'envoi dans la région d'un porte-avions américain et de bombardiers B-52 depuis que l'Iran a été accusé de préparer des attaques imminentes contre les forces et intérêts américains. Ils ont expliqué qu'il s'agissait d'une escalade sans précédent, a déclaré le sénateur républicain Lindsey Graham, un faucon, après le briefing du ministre de la Défense par intérim, Pat Shanahan, du secrétaire d'État Mike Pompeo et du chef d'état-major interarmes, le général Joseph Dunford. Les démocrates ne le voient pas ainsi et ont même exprimé des doutes sur la sagesse de la politique de pression maximale de l'administration Trump contre l'Iran. Mais M. Shanahan soutient que le déploiement américain a servi de moyen de dissuasion face à la menace contre les forces et intérêts américains. Les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des représentants ont annoncé mardi la convocation au Congrès de Hope Hicks, une ancienne très proche conseillère du président Trump. Ce dernier est soupçonné par les parlementaires d'entrave à la justice et d'autres abus de pouvoir. Également convoquée Annie Donaldson, qui était chef de cabinet de l'ancien conseiller juridique de la Maison-Blanche, Don McGahn. Ce dernier a défié mardi matin, sur demande de l'exécutif, une même convocation du Congrès pour une audition relative à la récente enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. En Grande-Bretagne, le Brexit, encore et toujours, la première ministre Theresa May a annoncé hier une série de compromis dont la possibilité de voter sur un second référendum et le maintien dans une union douanière temporaire avec l'Union européenne pour tenter de rallier à son plan de sortie de l'UE la majorité des députés. Des détails avec Jacques Aristide.
Theresa May est catégorique. Il s'agit de la dernière chance de mettre en œuvre la volonté des Britanniques qui ont voté à 52% pour le Brexit. Les parlementaires ont rejeté à trois reprises l'accord conclu en novembre dernier par la dirigeante avec Bruxelles, l'obligeant à repousser deux fois la date du divorce, désormais programmée pour le 31 octobre au plus tard. Cela a également contraint le gouvernement à organiser en catastrophe des élections européennes qui se tiennent ce jeudi, alors que le Royaume-Uni avait prévu de quitter l'UE le 29 mars. Si les députés approuvent le projet de loi qui leur sera présenté début juin, elle entend les faire voter sur la tenue d'un second référendum sur le Brexit ainsi que sur le maintien temporaire du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE. La dirigeante conservatrice s'est en outre engagée à garantir les droits des travailleurs et les normes environnementales, ce qui était également réclamé par le Labour, l'opposition travailliste dirigée par Jeremy Corbyn.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Place maintenant à Idrissa Seydoudia pour le reste de cette émission.
La Minute Éco, Nanit Talami.
Lancement de Sublime Côte d'Ivoire, un programme d'un coût de 3200 milliards de francs CFA visant à développer le tourisme étranger. Le ministre du Tourisme, Siondou Fofana, a révélé que l'ambition de la Côte d'Ivoire est de devenir d'ici à 2025 la cinquième destination touristique africaine, contribuer à 12% du PIB contre 5,5% actuellement et créer 365 000 emplois contre 270 000 générés en 2005. 2016. Au Zimbabwe, les prix des carburants ont augmenté aujourd'hui de près de 50% suivant une annonce de l'autorité de régulation de l'énergie. Le tarif à la pompe d'un litre d'essence est passé de 3,42 à 4,97 dollars RTGS, la monnaie d'échange locale, et celui d'un litre de diesel de 3,38 à 4,89 dollars RTGS. Cette mesure intervient au lendemain de la décision de la Banque centrale zimbabwéenne de supprimer une forme de subvention qu'elle accordait aux sociétés locales pour acheter du pétrole sur le marché international. Pour terminer, dès juillet, les prix de l'électricité vont de nouveau augmenter en Égypte de 14,9% en moyenne dans le cadre d'une politique de réforme visant à stimuler l'économie pendant l'année budgétaire 2019-2020. Le FMI estime que ces mesures sont essentielles pour encourager une utilisation efficace de l'énergie et pour favoriser les dépenses hautement prioritaires dans les domaines de la santé et de l'éducation.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Côte d'Ivoire a dévoilé son programme de préparation pour la CAN 2019.
Oui, le sélectionneur Ibrahim Camara a prévu deux stages et trois matchs amicaux pour son groupe. Le premier stage débutera le 31 mai pour s'achever le 8 juin avec un match amical contre la Gambie le 7 juin à Amiens en France donc. Puis cap sur Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis à partir du 10 juin pour le second stage qui sera marqué par deux matchs. Un contre l'Ouganda le 14 juin et un autre face à la Libye. Quatre jours plus tard, le sélectionneur annoncera une présélection le 31 mai pour le premier stage et à l'issue du match contre la Gambie, les 23 retenus pour l'Égypte seront dévoilés. En Égypte, justement, la Côte d'Ivoire figure dans le même groupe que le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie.
Le pays hôte, l'Égypte, fera sans Karaba et Sobhi.
Ce sont les grands absents de la liste des 25 dévoilés par Javier Aguirre, le sélectionneur des Pharaons. Ramadan Sobhi, pourtant rentré d'Angleterre pour retrouver du temps de jeu à Al Ahly, n'y figure pas, tout comme Mahmoud Karaba, actuellement en finale de la Coupe CAF avec le Zamalek. En revanche, les cadres comme Mohamed Salah, El Mohamadi, El Neni sont présents. A noter aussi le retour en sélection 8 ans après d'Ahmed Ali, actuel meilleur buteur du championnat égyptien avec 18 réalisations. Au programme de la préparation, l'Égypte affrontera la Tanzanie le 16 juin et la Guinée 3 jours plus tard.
60 000 spectateurs attendus pour la finale retour en Coupe CAF.
Oui, ce derby maghrébin entre les Marocains de Berkane et les Égyptiens du Zamalek se jouera à guichet fermé au Caire. Au départ, seulement 30 000 personnes avaient été autorisées à y assister, mais les autorités égyptiennes ont finalement décidé d'augmenter le nombre de spectateurs à 60 000, permettant ainsi au Zamalek de bénéficier d'un important soutien de son public. Pour rappel, au match aller au Maroc, Berkane l'a emporté 1-0.
Messi est bien là pour la Copa América.
Après un intermède post-mondial, loin de la sélection, Lionel Messi a rejoué en mars lors d'un match amical perdu 3-1 à Madrid contre le Venezuela au cours duquel il a livré une piètre performance. Il ne compte qu'une sélection durant l'ère Scaloni, arrivé à son poste après le Mondial 2018 en Russie, jamais appelé depuis le Mondial et auteur d'une bonne saison en club. Angel Di Maria et Sergio Aguero effectuent leur retour en équipe nationale. Les attaquants Gonzalo Higuain à Chelsea et Mauro Icardi, un temps écarté à l'Inter de Milan, n'ont pas été appelés. La Copa América se disputera au Brésil du 14 juin au 7 juin prochain. NBA, pour finir, Idrissa, la nuit dernière, s'est joué le match numéro 4 en finale de la conférence Est entre Milwaukee et Toronto.
Toronto et Milwaukee sont dos à dos, deux victoires partout après le succès des Raptors 120 à 102 mardi à domicile. Les Raptors se sont relancés grâce à une impressionnante prestation collective alors que leur meilleur marqueur, Kawhi Leonard, était diminué par une blessure. Toronto a également réussi à perturber les séquences offensives de Milwaukee. Le prochain match aura lieu jeudi dans la salle des Milwaukee Bucks.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est finalement la date du 30 mai qui a été retenue pour le rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo. Un retour qui s'est fait plus de 2 ans après le décès du leader historique de l'UDPS, dont le fils Félix Tshisekedi est devenu président de la RDC après la présidentielle du 30 décembre 2018. Eddie Isango a joint à Kinshasa le tout nouveau chef de la maison civile du président Félix Tshisekedi et frère de feu Étienne Tshisekedi, l'évêque émérite de Mweka dans le Kasaï, Mgr Gérard Moulumba.
C'est confirmé jusque-là, donc on a décidé de rapatrier le corps le 30 mai, jeudi 30 mai matin, le corps va arriver à Kinshasa. Et durant 3 jours, il y aura les hommages jusqu'à samedi, le 1er juin, où l'inhumation sera prévue dans la journée.
Où en sont les travaux du mausolée ou de l'endroit où il devait être enterré, enterré?
Pratiquement terminé. La préparation pour le caveau, le mausolée viendra plus tard. Mais pour le moment, donc, c'est le caveau et l'aménagement du site d'inhumation pour la circonstance.
Il y avait une mésentente entre la famille, avec à ses côtés les partis l'UDPS et l'ancien pouvoir ou l'ancien régime. Comment en êtes-vous arrivé à choisir cet endroit? Comment vous en êtes convenu? Parce que maintenant, c'est son fils qui est le président de la République.
En 2017-2018, nous avions choisi d'autres sites qui avaient été rejetés par le régime de ce temps-là. Mais par après, nous-mêmes, nous avons choisi un terrain à nous, donc pour la famille. Et même cette année, nous avons maintenu ce choix-là. Nous sommes plus revenus vers le site du centre-ville. Nous avons trouvé que ce site-là que nous avions retenu pour nous est le meilleur.
Quels sont les présidents d'autres pays qui seront invités à ces funérailles?
Non, là, je ne pourrais pas vous donner tous ceux qui viendraient, mais il y a une vingtaine de délégations de pays étrangers qui vont venir, d'après ce qu'on a appris à la présidence. Il y aura une communication officielle là-dessus à la présidence. N'a pas encore donné cette information-là.
Beaucoup de choses ont été dites sur la dépouille. Certains pensent qu'elle avait été enterrée momentanément.
Non, non, tout cela, ce sont des bobards qu'on a raconté, c'était faux. Le corps est toujours gardé à la morgue de Bruxelles.
Mais pendant plus de 2 ans, ça doit coûter énormément d'argent, les yeux de la tête quand même. Qui paye ça?
L'État congolais a accepté de payer la facture. On a facturé la famille, mais la famille s'est référée à l'État congolais qui a accepté d'honorer la facture.
Est-ce que la dépouille passera par l'unité à son domicile ou alors au siège du parti?
Non, là, c'est le conseil de sécurité qui décidera la demande du parti et de la famille, mais je ne suis pas sûr que ce sera facile à faire. Là, le dernier mot revient au conseil de sécurité avec le protocole d'État.
C'était Mgr Gérard Moulumba, évêque émérite de Mweka dans le Kasaï, frère de feu Étienne Tshisekedi.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Grève générale des agents de la santé au Burkina Faso, une grève de quatre jours déclenchée par le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale pour obliger le gouvernement à satisfaire ses revendications. Dans la capitale, plusieurs centres de santé sont fermés depuis hier matin et d'autres tournent au ralenti. Constat dans ce reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Tôt ce matin, comme d'habitude, les patients se sont pressés au centre de santé et de promotion sociale de Kate Wemtenga pour des soins. Ils ont trouvé que l'entrée était fermée.
Je suis arrivé ici à 8 heures avec mon bébé que je suis venu soigner. Le docteur n'est pas là, tout est fermé. Je ne sais comment faire puisqu'on dit que partout c'est la même chose.
Dans ce centre de santé, tout est effectivement fermé, y compris le dépôt pharmaceutique. Un témoin présent dans un bureau adjacent d'état civil raconte.
Je suis arrivé à 7h30 ici et j'ai constaté que les malades viennent et puis ils repartent.
parce que les agents ont respecté leur grève, ils ne travaillent pas. Les malades sont en train de repartir. Puisque les stagiaires les rejettent, ils disent qu'ils ne travaillent pas. Sans les titulaires, les stagiaires ne peuvent rien faire.
La grève va durer 4 jours selon les syndicats qui revendiquent ce qu'ils appellent la fonction publique hospitalière qui devrait leur assurer de meilleures rémunérations. Au centre de santé du quartier de Dasasco, la porte est ouverte, mais les services sont aux arrêts. L'infirmière Marie-Madeleine Ilboudo en est le chef.
Depuis le matin, au niveau de la maternité, on a eu des femmes. Au niveau du dispensaire, on a eu des malades. Au niveau de la SMI, c'est des jours destiné à la pesée, à la vaccination. Pour ceux qu'on peut donner un rendez-vous, on donne. Pour celles où on ne peut pas donner de rendez-vous, on essaie de les diriger à un centre confessionnel à côté. Voilà, 500 mètres, donc, pour qu'au moins ceux ou celles qui sont dans l'urgence puissent trouver satisfaction.
Une situation mal accueillie par les usagers de ce CSPS.
Nous, la population, on suggère que le président n'a qu'à voir, au moins au niveau de la santé, et au niveau de l'enseignement là, pour qu'il n'y ait plus de grève. Ce matin là, il y a des gens qui viennent, ils savent même pas qu'il y a la grève. Bon, en cas d'urgence là, si ces personnes là, s'ils n'ont pas de moyens là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs malades?
Une femme enceinte est arrivée ici pour les services de maternité et elle a trouvé porte close. Elle a décidé de rebrousser chemin à la maison. Si quelque chose arrive au bébé, que va-t-on dire? Ce n'est pas normal. Si ça continue comme ça, nous allons encore ressortir dans la rue.
Voilà, avant de retourner le gym là,
avec la arrêt complet sans service minimum disponible au niveau de nombre de centres de santé publics, les conséquences pourraient être dramatiques pour les populations si aucune solution n'est trouvée avant la fin de la grève dans 4 jours. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La société d'énergie solaire Bibox utilise la méthode d'alimentation au réseau pour fournir de l'énergie électrique à toute une communauté au Togo. Elle le fait en collaboration avec l'EDF, Électricité de France, afin d'alimenter gratuitement tout le village de Sipé à Fidénion. Conséquence, les habitants de la région témoignent désormais d'une meilleure qualité de vie et d'une augmentation considérable de leur productivité. Bibox entend cependant installer la même technologie dans toutes les communautés africaines pour aider notamment les particuliers et les PME à mieux mener leurs activités génératrices de revenus grâce à l'énergie propre et renouvelable. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Abla Ogodo faisait 10 km à pied pour aller chercher de l'eau pour sa famille. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'aller si loin pour s'offrir de l'eau potable.
Nous avons maintenant de l'électricité pour alimenter la pompe. Avant, aller chercher de l'eau était une vraie corvée. Nous passions toute la journée à aller chercher de l'eau. Maintenant, nous avons de l'eau quand nous le voulons. Nous sommes libres maintenant.
Bibox est une société d'électricité basée au Royaume-Uni. En partenariat avec le groupe France EDF, elle alimente entièrement le village de Sipé à Fidénion en énergie solaire, une réalité qui change les habitudes dans cette région où l'électricité était produite par des générateurs bruyants qui fonctionnaient grâce au mazout, un carburant qui pollue l'environnement. Essie Domez, résidente à Sipé à Fidénion, se réjouit de cette nouvelle technologie.
Nous vivons un grand changement dans le village depuis que Bibox a installé la centrale solaire. On avait beaucoup de difficultés avec l'ancien moulin du village. Ça marchait difficilement, il fallait toujours moudre le maïs à 3 ou 4 reprises avant d'avoir une bonne farine. Mais avec Bibox, tout est facile maintenant et moudre le maïs n'est plus une corvée.
Même son de cloche du côté de Bogar à Mebuto, il est couturier dans le village de Sipé à Fidénion.
La vie a changé au village, c'est très bon, je suis content. Avant, ceux qui avaient plus de moyens utilisaient un petit groupe électrogène pour le travail. Et quand ça fonctionnait, on gérait avec parcimonie. Maintenant, l'électricité est disponible à toute l'heure.
Sipé à Fidénion est le premier village togolais à bénéficier du nouveau système hors réseau de Bibox, un système que la société souhaite étendre dans tout le Togo, précise l'un de ses superviseurs, Isidore Kodjo.
Avant, là, le village est noir. Tout est noir. Maintenant, depuis le lancement ou bien l'ouverture de cette centrale, vous allez voir la nuit, le village est clair, les enfants qui apprennent en dessous des lampadaires, tout ça.
Pour l'instant, le service est gratuit, mais les résidents devront commencer à payer dans quelques mois. Lara Santiago est le directeur général de Bibos Togo.
Nos populations dans cette zone devraient pouvoir avoir accès à Internet, à la téléphonie mobile, à l'électricité propre, notamment produite par des systèmes solaires, mais aussi pouvoir avoir la possibilité de faire fonctionner des usages productifs, comme les moulins, les pompes à eau, etc. Bref, tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie.
En Afrique de l'Ouest, des dizaines de millions de personnes n'ont pas un accès fiable à l'électricité. Pour les entreprises développant des programmes hors réseau, cela représente un marché inexploité de plusieurs milliards de dollars.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Les technologies de l'information rendent les agriculteurs camerounais plus autonomes dans la commercialisation de leurs produits. Beaucoup dépendaient de courtiers qu'ils payaient, mais ils vont désormais sur Internet pour s'adresser eux-mêmes directement aux clients, comme nous l'indique Anne-Mireille Zouanke dans son reportage que reprend ici John Linden.
Loïc Domguia, agriculteur, vend la quasi-totalité de ses produits en ligne et via des applications téléphoniques. Il utilise Internet depuis un an et se réjouit de ses revenus.
Client, il dort tranquille sachant qu'il a des commandes sur ses produits qui sont en cours.
Domguia utilise une plateforme locale où sont connectés producteurs et acheteurs. Elle permet aux agriculteurs de vendre directement aux clients sans passer par des intermédiaires. L'application qu'il utilise, Djangolo Farmer, leur permet même de recevoir des paiements anticipés, ce qui, selon les concepteurs, offre la possibilité aux agriculteurs de vendre même leurs produits avant la récolte. Rose Ngam promotrice de Djangolo Farmer.
Il y a également une différence au niveau du prix lorsque on achète un produit sur Djangolo Farmer, vu que le nombre d'intermédiaires est considérablement réduit, ce qui fait également que l'acheteur gagne en achetant un produit à des prix un peu plus bas et l'agriculteur de son côté aussi a une marge bénéficiaire un peu plus haute en vendant à travers notre application.
Selon l'Institut national des statistiques du Cameroun, 25% de la population est connectée quotidiennement à Internet. Ces abonnés du net achètent régulièrement en ligne des produits agroalimentaires. Freddy Ngoudi est un utilisateur de Djangolo.
Je suis en train de passer la commande des poulets en ligne, tout simplement parce que je n'ai pas assez de temps. Et comme je suis à la salle de sport du matin au soir, il était important pour moi de passer une commande en ligne pour que je puisse être livré.
Les experts estiment que le développement des plateformes de vente en ligne dans le secteur agroalimentaire est une bonne initiative, mais que beaucoup reste encore à faire. Cyprien Tanque, spécialiste en e-commerce.
Alors, si vous ne possédez pas de magasin, il serait difficile pour l'acheteur d'évaluer votre produit. Il ne va pas l'acheter au champ. Il faudrait bien que vous ayez un espace en dépôt où il pourra évaluer le produit avant de débourser de l'argent. L'absence de magasin est un frein au développement de ce type de e-commerce.
La Banque africaine de développement estime qu'il existe plus d'un milliard d'abonnés à la téléphonie mobile en Afrique, ce qui constitue un marché plus important que l'Union européenne ou les États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.